les avez vus, les écologistes? Eh, sérieusement.
Alarmiste! Tiens, la centrale de Neuchâtel viendra nous péter à la gueule. Que vous les verriez tout de suite. Atome!
CO2, mon amour.
Au lieu de rester décontracté, détendu.
Si on écoute les écologistes, là, on n'a pas fini, hein.
Dépenser à tous ces déchets? Mais avec tous ces déchets, on pourrait nourrir tout le tiers-monde!
Denis Chesson.
Quoi? Oh, beaucoup de beau, quoi?
Parce que c'est radioactif? Hey, quand on a faim, on mange, hein?
Allez, une petite dernière pour la route. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. C'est au de mon amour parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes le changement. Avec aujourd'hui Hélène Langlois à la technique et assistée de Claire Destacan, sans oublier Albert Houck, c'est Christophe Imbert qui réalise cette émission. Dans le champ de fleurs épargné par les pluies, l'enfant écoute les oiseaux, triant majeur, sonate de gazouillis. Il parle aux grillons aussi, aux coccinelles, il écoute les abeilles. Mais plus haut dans le ciel, ah, allô la Terre, allô Houston, ici l'écologie, je ne vous entends plus. Ici la Terre, ici depuis 50 ans, nous vous recevons très mal, vous savez, l'écologie. Et ouais, normal, ils m'ont satellisé. Qui qu'en veut de l'écologie aujourd'hui? En fait, les gens veulent bien un peu, mais ils veulent pas forcément des écologistes. Ils ne croient pas que la Terre, c'est notre maison, notre vie, notre survie, sauf l'enfant qui parle au brin d'herbe, qui joue au papillon. Il y a trop d'écologie, trop de normes, trop d'écologie. Et oui, usine à animaux qui apportent misère et nitrates, air des villes nées comme une patate, bronches parfumées aux particules fines, sol faiblard, glyphosate qui résiste à coups de milliards, chimie, pesticides et cynisme, réchauffement, maladie à tous les étages. Ben vous avez raison, où est le problème? Trop d'écologie, on vous dit, aux abonnés absents de la primaire et du monde. Alors, relire les évangiles selon saint Claude Allègre. Les écolos sont des rabat-joie. Partout, ils voient le mal, qui passe le plus clair de leur temps à nous saper le moral. Ah non, mais franchement, si on ne peut plus prendre son 4x4 pour chercher son pain au coin de la rue, où va-t-on? La vie, ça devient le goulag. Et puis, regardez l'allure qu'ils ont, ces écolos. Tenez, regardez Pierre Rabhi et sa sobriété soi-disant heureuse. C'est quoi cette chanson? Vous croyez qu'il mange à sa faim, ce monsieur qu'on aime? Vous avez envie de lui ressembler? Moi, à chaque fois que j'aperçois Pierre Rabhi, je reprends des frites pré-cuites OGM pour éviter la contagion. Et cette banquise qui, paraît-il, est en train de fondre et que, blablabla, le niveau des mers va monter entre nous. Moi, j'habite au 5e étage. Le temps que la flotte arrive dans mon salon et m'empêche de regarder le foot sur mon écran panoramique acheté en promotion, j'ai le temps d'acheter une barque. Et l'écologie, bah c'est juste des problèmes pour plus tard, tout le monde le sait, sauf ceux qui s'intéressent à l'écologie. Et franchement, d'ici que ça devienne vraiment invivable, il y a bien longtemps que j'aurais changé mon 70 mètres carrés à l'aise, avec vue sur les bouchons du périphérique, contre un 2 mètres carrés sur 3 au Père Lachaise. Voilà, bon alors cela dit, c'est vrai que depuis deux semaines on parle quand même pas mal de nature, hein, de biodiversité grâce à l'euro. Ah bah oui, on a parlé de l'état de la pelouse des stades quand même, hein, qui ne permet pas aux crampons de jouer normalement. Voilà, ça le prix de pelouse et de nature. Bonjour Frédéric Noé.
Bonjour Denis Jésus, vous êtes enfant, c'est parfait pour cet été.
Bah voilà, ça va être ça. J'avais un petit truc là, mais très très rapide. Et demain dimanche, autant suspend ton vol, mais suspendra-t-il un aéroport? Voilà. C'est comme ça.
Je ne sais pas du tout à quoi vous faites référence.
On n'a pas le droit de toute façon, c'est normal. Bon, cher Frédéric, nous allons avoir donc Christian Signol, que vous connaissez, qui était un écrivain quand même assez formidable. On va partir dans le Lot avec lui, on va retrouver le docteur Laurent Chevalier. Et puis dans nos petites actualités, si je vous dis 400 ppm, ça, on va traduire ça tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire?
Je vous traduis par Amsterdam. 400 ppm, c'est 400 parties par million, c'est 400 grammes par tonne, c'est 400 molécules de CO2 par million de molécules d'atmosphère. Et là, c'est un triomphe. On a officiellement dépassé le seuil psychologique des 400 ppm dans l'hémisphère sud. Or, dans l'hémisphère sud, vers l'Antarctique, sur l'île d'Amsterdam, qui se trouve à peu près équidistante entre la Réunion Et l'Australie, c'est une île qui est loin de toute pollution et pour laquelle c'est une île qui ne peut pas mesurer dans le CO2 atmosphérique qui est au-dessus d'elle les variations un peu embêtantes qu'on trouve dans l'hémisphère nord. Vous savez, dans l'hémisphère nord, l'été, il y a absorption du CO2 par la croissance des plantes, donc la courbe descend. Et puis l'hiver, il y a décomposition des plantes et là, la courbe monte. Dans l'hémisphère nord, on avait déjà épisodiquement atteint les 400 ppm en 2013. Là, si on les a atteints dans l'hémisphère sud,
c'est que c'est bon pour tout le monde.
C'est bon pour tout le monde et que donc ça ne peut qu'augmenter. Ça cache sans doute un taux encore plus élevé dans l'hémisphère nord.
Alors, traduction, ça veut dire que d'ici à peu près 25 à 30 ans, on sera vraiment à ces fameux 2 degrés, on va dire.
Ah bah, oui, ça c'est une certitude. Pour fixer les idées, ces 400 ppm dans l'hémisphère sud, dans l'Antarctique, a priori, n'existe. On ne les a jamais mesurés avant 4 millions d'années. Il y a 4 millions d'années, on les avait déjà. Depuis, on était passé globalement à 270 ppm. C'était le taux de l'époque pré-industrielle. Là, on est à 400 ppm. Donc les 2 degrés, oui, on y arrivera bien avant la fin du siècle, mon cher Denis.
Bon, ben voilà, donc c'était notre première actualité. Oui. Bien sûr, mais on va quand même en avoir d'autres. Et puis je vais vous emmener d'ici quelques instants dans le Lot, histoire de changer d'air. Notre première chanson, choisie par Thierry Dupin. Oh, bah dites-donc, les actualités. Sinon, j'espère que vous allez bien. Mais oui, un petit coup d'été, ça vous dit ? C'est le vrai, hein ?
Oui.
Et aussi en chanson. Ah, on est comme ça.
J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles. Et Dieu sont ravis. Enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été. Enfin l'été, mais il y a déjà plus d'argent. Le tout Paris se transforme en phobie. Le métro surtout devient purulent. Dans ses souliers, le passager abruti. Adéquaté qui s'exprime violemment. Il y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Superflu, il fait trop chaud, le soleil m'a pas ourdi. Riette sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans les lits. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aigri. J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis. Voilà l'été,
voilà l'été.
Toujours l'été,
toujours l'été.
Oh.
C'est petite émission qui respire sur France Inter.
Ah bah oui, il a grandi le petit garçon maintenant. Donc avec Frédéric Danhé, CEO de Mon Amour, toujours avec vous sur France Inter. Bon alors, l'été, les parties par millions, très bien, et quand même aussi là où c'est chaud, c'est évidemment le Brexit. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire effectivement sur ce pays, donc Royaume-Uni, on va le rappeler, plus de 64 millions d'habitants, plus de 243 000 km², mais c'est quand même moins de la moitié de la France. Et j'ai entendu donc sur Inter donc commentaire qui n'était pas inintéressant. Évidemment que c'est pas forcément ça la cause du Brexit, loin de là, mais les Anglais ont un rapport à la terre quand même qui est extrêmement fort. Et donc avec 300 000 habitants, on va dire, nouveaux par an, bah, ils ont peur aussi d'une certaine urbanisation. Voilà, c'est juste comme ça. Bon, c'est pas lié à ça. Hein,
mais effectivement, quand on va en Angleterre, on est surpris par l'aspect un peu bonbonnière. On a l'impression d'être dans un roman d'Agatha Christie, surtout dans le sud de l'Angleterre. Alors, c'est pas tant la terre ou les sols que les paysages ruraux qui sont extrêmement protégés, à tel point que c'est un enfer pour les logisticiens, pour les transporteurs de livrer les grandes villes anglaises, parce qu'on peut pas faire d'autoroute, on peut pas faire de rocade, on peut pas faire de rond-point. Voilà, parce que les paysages sont protégés.
Ça va, les ronds-points, c'est bon.
Non, ça va, les ronds-points. Le record d'Europe est en France. Il y a un rond-point par ville, à peu près. Un petit peu plus. Donc, effectivement, derrière cette identité nationale, il y a l'identité paysagère. Ça peut expliquer une partie du vote. Mais ils ont quand même la mémoire courte, les Anglais, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'au début des années 80, l'Angleterre était considérée par les environnementalistes comme l'homme sale de l'Europe. L'air était dégueulasse, les rivières étaient dans un état pitoyable, pire que les nôtres aujourd'hui. Et c'est grâce à l'Europe, c'est grâce aux directives européennes qui ont été transposées dans les lois du Royaume-Uni que les choses se sont largement améliorées, et aussi sur les habitats naturels, en particulier pour les oiseaux, pour le gibier qu'affectionne tant les aristocrates anglais, lesquels sont à l'origine de tout ce qui protège les paysages anglais. Donc ils sont un peu...
Alors il y a un point qui est très intéressant aussi, c'est qu'on s'intéresse à l'Union Européenne, ça a été quand même le travail, on va dire, de sape, ou en tout cas d'obstruction aussi des Anglais, particulièrement concernant la chimie.
Ah, ça c'est étonnant. Les Anglais ont tout fait pour qu'il n'y ait aucune législation sur la chimie, ont tout fait pour que la directive REACH, dont on a souvent parlé dans cette émission, cette directive REACH qui impose de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'examens pour tous les produits chimiques qui sont sur le marché et qui a fini par aboutir à l'interdiction de plusieurs milliers de molécules. Ce sont les Anglais qui ont systématiquement bloqué. Pourquoi ? Parce qu'ils privilégient, un peu comme les Américains, enfin l'Amérique de Trump en tout cas, ils privilégient leur économie, la bonne santé de l'industrie chimique anglaise sur l'environnement. Et donc, quand on interroge les gens qui s'occupent de cette affaire à l'Europe, pour eux, que les Anglais ne soient plus là, c'est presque un ouf de soulagement, parce que c'était le principal frein à l'élaboration d'une législation, par exemple, à simplement une définition de ce qu'est, à l'échelle européenne, un perturbateur endocrinien. On n'a toujours pas de définition, en grande partie, parce que les Anglais n'en veulent pas. Et derrière eux, c'est la plupart des pays d'Europe de l'Est, pour qui c'est l'industrie qui compte, qui était entraînée. Donc, qu'est-ce que ça va devenir derrière ?
Point d'interrogation.
Après, sur l'état de l'environnement, on a tout entendu, ça va être une catastrophe en Angleterre. On n'en sait rien. Il faut quand même savoir que la plupart des directives européennes sont dans la loi anglaise et que l'état de l'environnement ne serait dégradé que si les lois anglaise était remise en cause. J'imagine mal que l'Angleterre reverrait l'ensemble de ses lois environnementales dans les semaines à venir.
Comme nous avons besoin d'air, je vous emmène dans un endroit où justement qui n'est pas du tout dégradé, c'est le département du Lot.
Le plus beau du monde.
Vous dites un des trois, comme ça vous êtes tranquille, vous ne citez pas les autres.
C'est vrai, il y a le Nord-Pas-de-Calais et puis
absolument. Bon, on va découvrir, enfin redécouvrir cet homme qui s'appelle Christian Signol, écrivain de son état.
Quand j'étais adolescent, je venais en bicyclette au bord de la Dordogne pour me baigner, évidemment, l'été, hein, pendant les vacances, mais aussi pour apprendre à pêcher à la mouche, une occupation qui m'est très chère aujourd'hui, je pêche quand je peux.
Et vous fabriquez vos mouches vous-même.
Et je fabrique mes mouches moi-même dans un petit atelier que j'ai là-haut dans ma maison du Cos.
Ouais.
Une activité que j'ai commencé à développer il y a une quinzaine d'années et aujourd'hui qui me prend quand même beaucoup de temps avec la pêche.
Mais alors aussi parce que vous avez fréquenté quelques auteurs américains qui pêchent eux-mêmes à la mouche.
C'est surtout Jim Harrison qui vient de disparaître, hélas, qui m'a donné envie de pêcher à la mouche, mais aussi les autres grands écrivains comme Norman MacLean, par exemple, qui avait écrit La rivière du sixième jour, adapté par Robert Redford.
Et au milieu coule une rivière.
Au milieu coule une rivière avec Brad Pitt et d'autres.
Brad Pitt qui avait un lancer incroyable.
Un lancer, un fouetté extraordinaire. On voyait le fil, la soie étincelé dans la lumière du matin. Ouais. C'était quand il prend une grosse truite il la suit tout le long de la rivière, il passe sous l'eau, il la récupère en bas d'une cascade.
Là, pour le coup, moi, je me souviens de cette expression que vous aviez employée, la rivière est marchande, autrement dit, ça veut dire qu'elle est pleine, qu'elle est voluptueuse, qu'elle a des eaux qui sont hautes, donc les bateaux, les gabarres pouvaient fonctionner.
Exactement, à l'époque des bateliers, il fallait attendre l'eau marchande, c'est-à-dire que l'eau arrive avec les pluies de printemps ou d'automne. Sinon, ils ne pouvaient pas descendre à la rivière parce qu'il y avait trop d'obstacles et c'était dangereux pour les bateaux. Mais c'était une activité qui, effectivement, j'ai exploité, si je puis dire, dans mon livre La rivière Espérance, et qui s'est arrêté à la fin du 19e siècle, au moment où le chemin de fer a ruiné l'activité des bateliers en quelques années.
Le lieu, c'est donc le Lot, le pays de naissance de Christian Signol. Précisément, il est né aux Quatre Routes. Alors certes, il vit en Corrèze, mais son berceau, les odeurs de son enfance sont là, dans le Lot. Alors Signol, c'est en fait un écrivain qui est aussi populaire, au-delà du périphérique parisien et de la sphère germanopratine, que discret. L'enfant des terres blondes, tout l'amour de nos pères, les enfants des justes, ce souvenir des jours de fête. En tout cas, c'est une balade avec un homme qui ne vit pas sans nature, il ne pourrait pas vivre sans nature que je vous offre, un homme qui a attrapé l'écriture par son enfance avec donc Christian Signol, et on ne peut pas retirer la pierre, le causse, la rivière, les forêts.
C'est un peu mon univers d'enfance, tout simplement,
ouais,
puisque mes grands-parents étaient originaires du Causse, de Martel ou de Grandmain, qui est une terre évidemment très aride, calcaire, très difficile à vivre, parce qu'ils vivaient de rien. Ils n'avaient rien, ses grands-parents. Et puis en bas, dans la vallée, c'est la rivière. Et puis un peu plus loin, si je puis dire, il y a aussi la forêt. Là où, quand j'étais enfant, on allait chercher les champignons, mon grand-père, qui était boulanger, coupait du bois pour son four, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des fours à bois.
Et vraiment, tout au long de votre œuvre, c'est un peu aussi un message, j'allais dire, parallèle à celui de Jean-Marie Pelt, à savoir d'éviter la trop grande coupure entre l'homme et la nature.
Exactement. Malheureusement, aujourd'hui, on ne vit plus au contact du monde naturel, ou très très peu. On vit surtout dans sa représentation, c'est-à-dire ce qu'on voit sur les ordinateurs, les tablettes, la télévision, et tout ce qu'on peut imaginer, des nouveaux systèmes de communication. Mais le contact direct, lui, avec le monde a été rompu. Et c'est, d'après les philosophes, quand même, le plus grand drame du siècle dernier, c'est que l'humanité a rompu ses liens avec la nature, et qu'en agissant ainsi, elle a du même coup rompu ses liens avec ce qui avait assuré sa permanence pendant 10 siècles.
Attention, on va essayer de mettre les pas où il faut, pour pas que la descente soit trop dure. Voilà, là on est sur la grève, et donc avec ces couleurs... Alors à la fois un peu brunâtre, vert foncé.
Et la falaise, le lit de la falaise, oui. Ouais. Et les petits chênes nains au-dessus de la falaise.
Bon, et puis nous avons nos amis les hérons.
Oui, il y en a de plus en plus, alors qu'il y a 20 ans de ça, il n'y en avait pas, très peu. Aujourd'hui, il y en a un tous les 200 mètres à peu près. Et évidemment, avec les buses, les faucons, tous ces oiseaux-là, qui hantent les éperviers de la Dordogne, comme disait Hugo Frey, évidemment. Hein. Et donc, il y en a de plus en plus, ça doit venir vraiment, essentiellement du changement climatique. Le fait qu'il ne remonte plus là-haut, il reste ici.
Il se sédentarise.
Voilà, exactement. C'est quand même assez réjouissant tout ça, ça fait du bien de voir de plus en plus d'oiseaux au bord de l'eau quand même.
Ouais.
Et nous avons devant nous, regardez là, ces insectes blancs, qui sont des plécoptères. Ce sont des sedges en anglais, des plécoptères, et nous on appelle ça des cuvères, parce que l'extrémité de l'abdomen est vert, ce sont les œufs de ces plécoptères, que les poissons, les truites, oh, regardez, vous voyez, il y en a beaucoup, hein, c'est une éclosion gigantesque, mais les truites et les ombres n'aiment pas les cuvères, bizarrement. Prennent beaucoup les éphémères, comme les Mars Brandt, c'est-à-dire les grosses mouches de Mars, ou les Baitis rhodani, mais ces sedges-là, ils ne les aiment pas, ils ne les prennent pas. Or, pourtant, au mois d'avril, sur l'eau, il n'y a que ça. Regardez, il y en a des milliers et des milliers, centaines de sedges.
Et alors, le manuel de la pêche, soit à Dordogne et ailleurs, par Christian Signol, c'est pour quand, ça?
Je ne ferai pas l'affront aux grands spécialistes, entomologistes, de venir sur leur terrain.
Voilà, bon, tout à fait. Et hop là! Alors ça doit être aussi le paradis des martins pêcheurs. Alors, c'est de temps
il y a beaucoup de martins pêcheurs. Il y a de plus en plus aussi sur la Dordogne des loutres qui sont revenus, alors qu'il n'y en avait pas avant. Très très peu.
Ah ouais.
Et nous avons aussi là-haut, sur cette, le petit train de Martel, l'ancien train de Martel.
C'est celui-là qui vient de siffler, là.
Oui, c'est celui qui vient de siffler et qui fonctionne pour les touristes, l'été surtout. C'est pas la route là-haut, mais la voie ferrée est sous la falaise, là, voilà.
Alors, l'histoire de la rivière Espérance, ça a été à force de la contempler, c'était... je sais que vous avez toujours un travail donc, de documentation, un travail historique, vous allez sur le terrain. On a Carena qui est carrément pas loin, là aussi. Donc, mais c'est né comment, cette saga ?
C'est né du besoin, une fois, pas adolescent, mais adulte, de retrouver cette trace-là, cette piste. Ouais. Finalement, ce paradis que j'avais perdu, tout simplement, puisque, étant parti pensionnaire au lycée de Brive à l'âge de 12 ans, dans une sorte d'emprisonnement dont je souffrais beaucoup, et même adulte plus tard, plus loin, en faculté à Limoges, tout ça, c'est dû donc à un besoin de revenir vers cette source-là, qui m'était familière depuis toujours, finalement. Et pour me, en quelque sorte, pour me l'approprier définitivement, parce que l'écriture, ça sert à ça. Ouais. Ça sert à s'approprier les choses définitivement.
C'est-à-dire, dans votre cas, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire rattraper le temps perdu et le rendre éternel.
Et le rendre éternel. Je crois que la littérature est une lutte perpétuelle contre l'oubli et le temps.
Question Signol, plus en amont, donc bien sûr il y a des barrages donc qui régulent cette rivière, qui fabriquent de l'électricité. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui ?
On peut dire aujourd'hui que les pêcheurs, les amants de la Dordogne craignent le pire, c'est-à-dire que va être renouvelée la concession de l'EDF sur les 5 barrages qui sont en amont d'ici, sur la Dordogne, là-haut le barrage de l'Aigle, le Chastan, Bord, puis il y en a 2 autres. Et on craint le pire parce que si jamais la concession est confiée à des sociétés privées étrangères, la régulation, on ne pourra pas du tout la maîtriser. Là, actuellement, on arrive à négocier un peu avec l'EDF. On a des niveaux assez normaux, tant qu'il n'y a pas de crue. Mais sinon, avec les sociétés étrangères, ce sera très difficile. Et donc, il y a des conséquences terriblement dramatiques pour le poisson. Ouais. Parce que la différence de niveau fait que souvent les œufs sont à découvert, etc. Et que les poissons meurent du fait que... De toute façon, le poisson n'aime pas les changements de niveau. Ils n'aiment pas du tout. Même pour la pêche, c'est très mauvais. Donc, nous craignons le pire par rapport à ce renouvellement de concession. Et on espère quand même que le gouvernement français fera le nécessaire pour que ce soit de nouveau confié par appel d'offres à l'EDF.
Et non pas par adjudication, parce que là, si c'est adjudication, c'est le moins 10 ans qui gagne.
Dans une adjudication, c'est toujours le moins 10 ans qui gagne. Dans un appel d'offres... Le cahier des charges peut prévoir des clauses différentes, que ce soit des clauses techniques ou environnementales, etc. Et donc c'est peut-être quand même plus facile à maîtriser.
Puis Christian, il y a quand même cette odeur de la Dordogne.
C'est l'odeur typique de la Dordogne que je connais depuis mon enfance. C'est à la fois une odeur d'eau, de sable, de boue, de limon. Un peu une odeur légèrement douceâtre, comme ça, et qu'on ressent encore plus le soir, c'est-à-dire vers 7-8 heures, au moment, en été, au moment où le jour bascule vers la nuit, et où les parfums de la journée qui ont été saturés par le soleil commencent à ressurgir avec plus de vigueur dans l'air et d'humidité.
Ils ont été emprisonnés et après, ils se relâchent.
Ils se relâchent, exactement. C'est à la fois le sable, le limon, la boue, l'eau, un peu la pierre, un peu les feuilles, un mélange de tout ça.
Alors ce que je vous propose, enfin c'est vous qui m'avez proposé, donc on va y aller. Là on va quitter donc ce ruban d'eau de lumière, parce que là en plus il y a un bel éclairage qui nous est tombé dessus. Donc là tout de suite la couleur des yeux de la rivière a changé, très très vite. C'est beaucoup plus clair là maintenant.
Oui, on va le fond, on va l'égaler, là, très très bien.
Et puis comme on a du calcaire, on va grimper sur le calcaire et on va se retrouver sur une autre partie du Lot que vous aimez, et là qui est aussi extrêmement importante. Allez, on y va. Thank you. Oh là, là on se pose sur le banc, là, Christian ?
Absolument, on se pose sur le banc face
alors, attendez,
à la vallée.
Parce que là, on a quitté donc la vallée de la Dordogne et nous avons grimpé. Nous sommes merveilleusement... Ah oui, on sent bien que l'oxygène se raréfie. On doit être à combien ? 300, 400 mètres ?
Oh, oui, 450 mètres, oui, sur le Causse de Martel. Et on y a une vue jusqu'à 150 km. Quand il y a la neige, je vois la neige du plomb du Cantal et du Puy de Sancy. Ouais. 1886 mètres.
Quand même.
Voilà, exactement.
Et on a une volée de calcaire, un grand drap de calcaire donc sous les pieds. Et là, on commence à toucher vraiment le cœur du Lot. On a quitté donc cette vallée. Et qui vous a toujours inspiré, c'est aussi votre relation aux causses que vous avez découverte tout petit.
Tout petit, parce que vivait ici dans cette vieille, très très vieille et petite maisonnette. Mon arrière-grand-mère et mon grand-oncle qui vivaient ici, mais de rien. Ils avaient quelques chèvres, un petit jardin, ils n'avaient pas d'eau. Ils allaient chercher l'eau avec des seilles, on appelait ça des seilles à 3 km là-bas derrière, sur le Causse. Et donc la citerne, c'est l'eau du ciel, hein. C'est pas la source, hein. C'est pas ça. L'eau d'en bas, hein. C'est l'eau d'en haut, hein, recueillie par le toit, qui descend là, par les gouttières et qui va dans la citerne. Ouais. De même qu'ils n'avaient pas de chauffage, hein. Ils se chauffaient dans la cheminée, dans le cantou, tout simplement. Il y avait une fumée dans cette maison. Chaque fois que je venais, c'était irrespirable. Il était obligé de faire des courants d'air entre la porte d'entrée et la porte du grenier.
Et il n'y avait pas les normes sur les alarmes incendies à l'époque, on ne peut pas dire.
Ni alarme d'incendie, ni normes de...
Parce que là, on entend un peu plus bas les vaches, mais se mêle aussi donc le son des sonnailles que nous avons, parce que pas très loin, donc on a des moutons. Et là, on attaque véritablement le Causse avec cette économie du mouton.
Absolument. Les vaches qu'on entend, c'est la vallée. C'est loin en bas dans la vallée. Mais le Causse, c'est derrière nous, effectivement, sur le Causse de Martel. Et là, il n'y a que des moutons, il n'y a pas de vaches du tout.
On les a là.
Oui, on les a là. Il n'y en avait pas loin en montant, là. Il y en a surtout le Causse, c'est l'économie. C'est l'agneau du Quercy. C'est un label. L'agneau du Quercy, qui est très très bon. À part l'agneau, à part les moutons, il n'y a rien. C'est difficile de faire pousser des céréales sur le Causse, sur les pierres du Causse. C'est quasiment impossible. Donc ça a toujours été ici, finalement. Une économie de survie.
Alors, si on vous retire le Causse, les forêts, l'eau, pratiquement, il n'y a plus de Christian Signol.
Il n'y a plus rien. Non, c'est mon paradis à moi. Hein. C'est ma raison d'exister, finalement, bon, avec ma famille, bien sûr. Mais pour moi, c'est le paradis terrestre. Le Causse et la vallée de la Dordogne. Regardez cette verdure en bas, la vallée, tout ça. Ouais. C'est encore une région, un milieu assez protégé, malgré les changements climatiques, malgré tout ce qu'on vit aujourd'hui, de mouvements, de changements extraordinaires. On a changé de monde, on a changé de civilisation. Hein. Et pouvoir continuer, malgré tout, à essayer d'exister un peu dans cet univers-là, est pour moi extrêmement secourable et précieux.
On est tous le fruit de son enfance, une fois de plus.
Ah oui.
Je sais plus, Rilke avait une jolie phrase sur le destin que nous avions.
Oui, c'était Rilke qui disait « Qu'est-ce que le destin, sinon la densité de l'enfance ?»
Voilà.
C'est du moins ce qui m'est arrivé moi, puisque enfant de la vallée, là, je venais souvent sur le Causse, j'allais souvent à la Dordogne, mais j'avais rêvé de pas m'en éloigner. Et bizarrement, j'ai réussi, mais je suis le seul de tous mes amis qui étaient au lycée avec moi, ou à l'école ici.
Ils sont tous partis.
Et ça n'a pas été un choix facile. Hein. D'ailleurs, mes parents, qui étaient commerçants dans le petit village de la vallée, l'avaient compris. Ils nous avaient dit, à mes frères et à moi, non, faut pas rester, il faut partir. Mais moi, j'ai fait le choix de rester. Il était indispensable pour moi, qu'il était vital de ne pas me couper de cet univers-là, de ce monde-là, où j'avais été si heureux.
Et à votre époque, il n'y avait pas du tout besoin de parler d'écologie, d'environnement. C'était de toute façon une économie, c'était de l'autarcie. Quoi.
C'était une économie fermée, oui. C'est-à-dire ils vivaient en autarcie. Ils ne dépensaient pas d'argent, d'ailleurs ils n'en avaient pas.
Non.
C'est tout simple. Mais ils vivaient de ce qu'ils produisaient, c'est-à-dire des volailles, un peu de moutons donc, un jardin, et voilà, tout simplement, hein, un peu d'eau, peu de choses, mais comment dire, je ne pense pas qu'ils étaient malheureux pour la bonne et simple raison qu'ils n'avaient jamais connu autre chose.
Oui.
Alors ils vendaient des fromages dans les foires, des fromages de chèvre dans les foires. ce qui a donné aujourd'hui le Rocamadour, hein, tout simplement. Mmh. Et puis, ils vendaient aussi quelques chevreaux dans les foires, parce qu'il y avait combien 5-6 chèvres. Voilà, et chaque année, ils vendaient des chevreaux. Mais d'argent liquide, non, il n'y en avait pas, du tout.
Et à la place des chèvres, maintenant, il y a plein de livres.
Alors, à la place des chèvres, effectivement, il y a plein de livres dans cette maison, dans toutes les pièces.
Oui, hein, c'est ça. Il y a peut-être la chèvre de M. Seguin, remarquez.
C'est possible, oui. La chèvre de M. Seguin, c'est possible, oui. Et, mais c'est un refuge pour moi, quoi. Ouais, parce que ça. Vivre dans une maison comme ça, qui m'est si chère, si précieuse, entourée de livres, ouais. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu une chance extraordinaire, Denis.
Qui a commencé par les Cailloux Bleus en 1984. Et qui a marché, en fait, tout de suite, quoi. C'est ça qui...
Alors oui, je suis passé de zéro à l'absolu. Je suis passé de 732 exemplaires, comme on dit Pochemore, le directeur de chez Robert Laffont. Quand un livre se vendait pas, il disait, oh, on en vendra bien 732.
C'est le chiffre donc, fétiche. Du loupé, quoi.
Exactement. Donc je suis passé de 732 à 100 000 en 3 mois.
Ah oui, c'est ça.
Alors là, bon, et depuis 84, tout ça. Donc c'est vraiment, j'ai eu une chance extraordinaire. Ouais. Et c'est miraculeux, finalement, ah, parce oui. que, durer si longtemps, même dans le domaine de l'édition, certes, c'est pas le domaine de la chanson, mais quand même, 32 ans,
ouais, c'est, ça.
C'est vrai que c'est miraculeux.
Ouais.
Et je savoure ça tous les jours.
Alors on a bien sûr ces murets qui viennent habiller, les murets de calcaire.
Oui.
Et à chaque fois, ça veut dire qu'il y a la main d'un enfant, d'une femme, d'un homme qui les ont ramassés.
Absolument, les champs ont été épurés, surtout par les enfants. Hein.
Épirés.
Ils n'étaient pas à l'école, oui, épurés. De ces murs de l'os qui ont finalement donné les murs de clôture du Causse. Il y en a partout sur le Causse. Et avec ça également, ils ont fait ce qu'on appelle des gariotes ou des caselles. Ça dépend de la région du Lot, qui sont des petites cabanes de bergers, finalement, d'abri pour les bergers, et pour les outils après. Après les bergers, ça a été les outils, quoi, tout simplement. Ouais. Et il y en a encore beaucoup sur le Causse.
Quelles sont les odeurs? Là, on a eu l'odeur de la Dordogne tout à l'heure, mais là, maintenant, c'est complètement différent.
Alors ici, c'est l'odeur de la pierre. C'est-à-dire, c'est l'odeur du calcaire sous le soleil, presque sablonneuse, très sèche, qui fait respirer finalement le socle intime de ce Causse, quoi, tout simplement. Hein. C'est la pierre sous le soleil, et avec une lumière qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Hein. Cette lumière de la pierre sous le soleil bleu du Causse ne se trouve nulle part ailleurs. Il y a une luminosité ici qu'on ne trouve pas ailleurs, nulle part.
Alors, le pays bleu.
C'est ce que j'ai voulu dire par ce titre, le Pays Bleu, qui regroupe les Cailloux Bleus et les Mondes Sauvages, qui datent de 84-85. Le Pays Bleu, regardez, ça veut dire ça. C'est-à-dire que devant ce Causse, ces contreforts du Causse, j'ai 150 km de ciel bleu, c'est-à-dire jusqu'à l'Auvergne.
Oui, alors donc dans le Lot, on a Rocamadour, Padirac, La Truffe, on a le Lot et le Célé quand même, hein,
oui.
Bon, un peu Cahors, un peu de vin quand même,
oui,
on peut rigoler,
oui, oui.
Un peu de foie gras,
et un peu de foie gras,
voilà. et Christian Signol.
Oui, si on peut, oui, mais enfin Christian Signol, il compte peu dans tout ça.
C'est-à-dire qu'on ne mange pas de la même manière.
Mais ici, vous savez, ils avaient leur vigne aussi, hein. La vigne de mon grand-oncle, elle était en bas là, c'était un vin. Un vin, Monsieur Chessoux, extraordinaire. Il faisait que 8 degrés, mais il était violet.
Oui,
vous savez, quand on l'avait bu, il laissait une auréole comme ça sur le verre.
Il n'y avait plus de microbes lorsqu'on le buvait, c'est ça ?
Rien du tout. Après, vous n'étiez jamais malade.
Ah non, ouais, vous n'avez plus l'estomac non plus.
Non plus, mais il faisait que 8 degrés. Il était bon.
Oui.
Il appelait ça du baco. Mon oncle allait le chercher à la cave là-bas. Je me rappelle quand il remontait avec sa petite bonbonne de vin, avec les fromages blancs. À 4 heures, c'était quelque chose d'extraordinaire.
Portrait d'un homme dans sa nature, dans son Lot, donc un homme très attachant, Christian Signol. Merci à Christophe Imbert qui a réalisé bien sûr ce reportage, et puis Sacha Trop qui était donc à la console. Et alors vous, en écoutant Frédéric Danhé, vous, homme du Nord, mais connaissez très bien aussi donc ce département du Lot, vous me disiez que Carénac, où nous étions pas très très loin, donc sur cette Dordogne, sur cette rivière Espérance, eh ben il y a un rapport direct avec la Reine Claude que l'on peut goûter.
Oui, à Carénac, on a fait de la Reine Claude.
Alors bon, Macaréou.
En fait,
fait, l'histoire peut-être un peu légendée nous dit que Soliman le Magnifique avait donné en cadeau pour la paix qu'il venait de signer à François, avec François Ier. Donc il a donné au souverain français des plans de prunier. Il savait pas quoi en faire, le pauvre François. Il a donc dit au moine clunicien de Carénac, qui était un peu agronome, il leur a dit, mais voyez ce que vous en pouvez faire. Et ils en ont fait tellement bien que ça a donné cette prune à qui ils ont donné le nom de la première épouse du roi, qui était sa première reine, la reine Claude. Et depuis 1998, cette petite prune est classée label rouge. Et ces moines ont fait ça dans ce cloître au fond duquel on trouve une mise au tombeau qui est un des plus bels exemples d'art religieux en France, mon cher Denis.
Merci beaucoup. C'est ça qui est bien dans cette émission. Mais oui. Tire un fil, hop, le noyau, et on y arrive. Et nous allons dédier donc à cette reine Claude, mais aussi à vous toutes et tous, cette chanson d'amour. Sur France Inter, bah bien sûr. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes. You still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true. Well, now this seems so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you.
Robbie Williams et Nicole Kidman, que voulez-vous de mieux dans ce haut de mon amour sur France Inter ?
Amis des embouteillages et des pôles d'échappement, du béton sauveur de l'homme, des décisions à court terme. Et si vous vous dites, après moi le déluge et la pollution, surtout n'écoutez pas CO2 mon amour, et vous faites pas de mal.
CO2 mon amour, Denis Chessou.
Et avec Frédéric Denré aussi, bien sûr, pour l'actualité. Parlez-nous de la mer, passion mer. Alors évidemment que pendant très longtemps, la mer, puisque vous allez peut-être y aller, et donc les uns et les autres, ça a été un peu le décor des loisirs des gens. Bon, mais c'est quand même évidemment autre chose. Et là, il y a une prise de conscience de plus en plus forte, Frédéric.
Oui, grâce à une directive européenne, tiens, on retombe sur l'Europe, la directive cadre stratégie pour le milieu marin, qui a demandé, qui impose aux pays membres de l'Union européenne de se pencher sur ce qu'on appelle leur façade, c'est-à-dire leur littoraux. Bref, de se pencher sur les usages de la mer. Ça ne s'était jamais fait avant, vous allez me dire. Et alors, France, c'est révolutionnaire. Parce que nos gouvernants, nos élus, nous autres Français, ne nous étions jamais, je dis bien jamais, préoccupés de ce qui se passe sur la mer. Pendant des siècles, ce sont les pêcheurs qui, de fait, parce que la mer n'appartient à personne, les pêcheurs et l'armée, mais avant tout les pêcheurs, avaient quasiment droit de faire ce qu'ils voulaient sur la mer. Là, ils sont obligés de partager avec les champs d'éoliennes, avec les aquaculteurs qui, n'ayant plus de place sur les littoraux, ont envie d'aller au large. Ils sont obligés de partager avec avec plein d'usages qu'on n'imagine pas encore, mais que l'Europe et la France aimeraient bien envisager. Ça veut dire quoi ?
C'est un peu la Blue Society dont on parle. Hein,
exactement. Ça veut dire que la mer, enfin, on se rend compte des ressources dont elle dispose et dont on pourrait profiter. Il peut y avoir des ressources... Alors, il y a les ressources en protéines, hein, c'est...
Bien sûr.
Voilà, il y a les ressources en énergie, et puis il y a les ressources...
Il y a presque les métaux rares aussi que l'on
retrouve. Il y a des métaux rares qu'on pourrait trouver, etc.
À 2000, 3000 mètres de profondeur.
Exactement, voilà. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans ces discussions qu'on appelle les documents de façade, eh bien, vous avez des gens qui habituellement ne se parlent pas et se parlent, et qui arrivent avec les pêcheurs à dire, ben voilà, à cet endroit-là, on fera ça, et on va se partager intelligemment les choses, et c'est la première fois que ça arrive en France, ce qui prouve qu'enfin, la mer est considérée au même titre que, bah, que l'agriculture, comme quelque chose d'important pour notre économie.
Mais, dedans aussi, c'est aussi une arrivée de capitaux qui vont être différents, surtout, par exemple, lorsque l'on parle d'aquaculture au large, il va falloir des moyens différents, puisque c'est saturé maintenant, donc sur les côtes, on n'en veut pas. Bon, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs aussi ?
C'est très symptomatique, c'est-à-dire qu'on va se déployer un peu plus au large dans la zone des, dans la zone des eaux territoriales, c'est-à-dire à une vingtaine de kilomètres au maximum des littoraux. Mais pour ça, il faudra ne serait-ce que dépenser de l'argent pour aller sur ces endroits-là. Et donc, ça va coûter cher. Et donc, cette aquaculture offshore qui est en train de se développer, qui va se développer, elle ne pourra pas se faire par les artisans d'aujourd'hui. C'est un peu la même évolution que dans l'agriculture et même dans le bio aujourd'hui. On arrive à une évolution évidente. Mais
c'est-à-dire que les capitaux, c'est-à-dire en train de s'emparer du bio. Hein.
C'est, bah,
ils essaient, voilà,
le marché du bio est devenu tellement spéculatif et devenu tellement intéressant qu'aujourd'hui, les entreprises fondatrices ont du mal pour financer leur croissance à trouver des capitaux. Et si elles ne s'organisent pas entre elles pour ce faire, avec les diffuseurs, avec les distributeurs, bah, ce seront les capitaux extérieurs, on va dire, de l'agriculture conventionnelle qui risquent donc d'investir sur ces entreprises et peut-être...
Donc pareil pour la pêche, le parallèle que
pareil pour la pêche, pareil pour l'agriculture. On imagine mal un petit ostréiculteur traditionnel aller financer des projets à plusieurs millions d'euros au large. Donc c'est très intéressant. À la fois, on se penche à nouveau sur la mer et c'est très bien, mais en même temps, on voit que il y a une adolescence qui est en train de se faire, mais qui pourrait se faire au détriment d'une philosophie à laquelle on est habitué, une philosophie de paysan.
Voilà. Alors, puisqu'on est dans l'alimentation, on va y rester avec le docteur Laurent Chevalier. Bonjour à vous, parce que vous venez de sortir avec Claude Aubert. Alors, on mange quoi ? Le guide du bon, mais sans toxique, c'est aux éditions Fayard. Alors, c'est pas un bouquin cata du tout, mais c'est un bouquin pour éviter les pièges, Laurent Chevalier. Lorsque vous dites qu'aujourd'hui, l'équation nutritionnelle ne tient plus dans ce pays, qu'est-ce que ça veut dire ?
Bonjour Denis. Sur le plan nutritionnel, nous sommes extrêmement préoccupés, médecins nutritionnistes, de ce qu'on voit. D'abord, on voit une augmentation d'un certain nombre de maladies. On voit qu'il y a aujourd'hui 1000 nouveaux cas de cancer qui sont détectés par jour en France. Et on voit des troubles digestifs de façon permanente. On peut estimer aujourd'hui qu'il y a pratiquement un Français sur deux qui a des problèmes digestifs. Donc, l'alimentation, notamment avec ces 350 additifs qui sont autorisés, pose des problèmes. Ça entraîne, bien entendu, parfois des allergies. Ça modifie parfois le mucus au niveau des intestins. Ça peut modifier aussi ce qu'on appelle la flore digestive, c'est-à-dire l'équilibre bactérien qu'il y a au niveau du côlon. Donc, tout ça, c'est préjudiciable. Il faut donc limiter de façon extrêmement importante toute cette alimentation qui est une alimentation hyper transformée et qu'on propose dès le plus jeune âge, ne serait-ce que par exemple avec de simples biscuits. Mmh. Il y a un certain nombre de biscuits qui peuvent poser des problèmes avec du sucre, du mauvais gras, même parfois du sel qui est ajouté, des arômes de synthèse, des émulsifiants, des épaississants, etc. etc.
Donc ne pas se faire avoir par la pub et le marketing, regarder les étiquettes et s'informer évidemment un minimum, et j'allais dire voter avec sa carte bleue tant que ces additifs, qui ne sont pas forcément tous des poisons, mais quand même sont là, et il y en a quand même beaucoup. Laurent Chevalier, les modes de cuisson, puisque c'est l'été, donc paraît-il, modes de cuisson, allons-y, barbecue, plancha, qu'est-ce que l'on peut dire ?
Alors, plusieurs choses. La première, c'est que schématiquement, vous avez deux types de cuisson. Ce qu'on appelle les cuissons humides, c'est-à-dire à l'eau, à l'étouffée, même la cocotte minute. À la cocotte minute, en fait, on va jusqu'à 115 degrés. Toutes les cuissons humides sont jusqu'à 100 degrés, la cocotte minute un petit peu plus. On s'est aperçu d'ailleurs que finalement la cocotte minute détruisait une partie des vitamines, une partie de la vitamine C et de la vitamine B9, mais pas autant qu'on imaginait. Donc ces cuissons humides sont des cuissons qui sont intéressantes et qu'on peut promouvoir avec, bien entendu, des choses un petit peu goûteuses. Il faut absolument toujours faire des choses sympathiques. Ensuite, on a la cuisson sèche. Donc sur les cuissons sèches, eh bien ça peut être le four, bien entendu, et puis donc le barbecue et la plancha. Il faut savoir que le problème du barbecue, c'est la graisse va tomber sur les braises, ça va brûler et ça va remonter dans la viande ou dans le produit qu'il y a. Et ça, bien entendu, c'est tout à fait néfaste, puisque ce sont ce qu'on appelle des HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, qu'on va retrouver, du benzoapyrène, qui sont des produits potentiellement problématiques et cancérigènes. Tout dépend, là, des doses qui sont absorbées. Et là, on a une évolution un peu positive de la part des fabricants. Les nouveaux barbecues mettent, en fait, les braises sur le côté. Et au milieu, il y a une grille. Et comme ça, si jamais il y a un peu de gras qui tombe, il ne tombe pas sur les braises. Ouais. Et il y a un couvercle dessus. Pour les barbecues traditionnels, il faut vraiment limiter leur usage et n'utiliser que des produits maigres. C'est-à-dire pas de la côtelette d'agneau, mais du gigot. Pas une entrecôte, mais plutôt du rump steak. Et éviter, bien entendu, toutes ces saucisses et ces merguez, qui sont aussi des produits, pour beaucoup, extrêmement suspects. Donc, il faut faire attention à ça.
Dans notre grande série, on ne veut surtout pas savoir ce qu'il y a dedans. Bah, si, justement, et là, c'est assez édifiant, quoi, dans certains cas.
Ensuite, sur la plancha, elle peut paraître mieux, dans la mesure où il n'y a pas cette graisse qui va tomber sur des braises. Bah oui. Mais on cuit quand même, toutes ces cuissons sèches sont quand même à 200 degrés. Donc, on a tendance à brûler. Et donc, si vous brûlez de la viande avec du gras, donc il y a des HAP qui se forment, l'hydrocarbure aromatique polycyclique et le benzoapyrène. Si vous avez du sucré, eh bien, on a une autre forme de toxique qui se forme, qui s'appelle l'acrylamide. Donc, on doit limiter cet usage. Et je voudrais juste ajouter une chose aussi pour le barbecue, c'est de quand même bien choisir le charbon de bois. En fait, on s'est aperçu qu'on a intoxiqué de façon absolument démente tout un tas de personnes, puisqu'on a utilisé à une période, ce qui est interdit maintenant, les traverses de chemin de fer qui étaient recyclées avec de la créosote. Et cette créosote était extrêmement toxique. Extrêmement toxique. Et aujourd'hui, il faut faire, par exemple, attention au sarment de vigne. Moi, j'ai des patients qui m'ont dit « Oui, mais nous, on le fait au sarment de vigne. » Oui, si la vigne est bio. Sans ça, qu'est-ce qu'on va mettre ? Eh bien, on va mettre des résidus de pesticides aussi dans la viande. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. Donc, on peut tout à fait faire un peu de barbecue, c'est très convivial, un peu de plancha, mais on choisit le bon barbecue, et sur la plancha, on ne cuit pas à très haute température.
Et puis, faites des salades avec des légumineuses, tout ça, ça fonctionne très très bien, c'est une merveille.
Exactement, et il faut bien comprendre une chose, c'est que, historiquement, on n'a jamais brûlé les aliments. C'est une invention du XXe siècle. Autrefois, les peuples dits primitifs mettaient, si vous voulez, la viande autour du foyer, sur des pierres plates autour du foyer.
D'accord.
Tournaient la viande au fur et à mesure. Et il y a une erreur d'interprétation, puisque très probablement qu'ils jetaient les déchets au niveau du foyer pour se débarrasser des déchets.
Donc on a cru qu'ils brûlaient la viande, mais en fait non.
On a cru qu'ils brûlaient la viande. Et c'est une erreur d'interprétation très très probable, puisqu'on a vu des peuples en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, qui continuaient à mettre autour du foyer, mais jamais sur le foyer.
Laurent Chevalier, aujourd'hui, sur les 350 additifs que nous connaissons, on va dire qu'il y en a une cinquantaine qui sont donc suspects, ce qui est déjà beaucoup. Donnez-nous quelques conseils pour choisir ces aliments, s'il vous plaît.
La première des choses, c'est d'éviter les produits hyper transformés. Donc, tout ce qui a été mélangé, etc., faites attention. Prenez des produits bruts, des filets de poulet, des filets de poisson, des légumes. Le deuxième point, c'est de faire attention à l'origine des produits.
Oui.
Si l'origine des produits n'est pas mentionnée, le produit peut être suspect, laissez-le de côté.
Troisième point.
On regarde la liste des ingrédients sur l'étiquette. Si on ne comprend pas ce qu'il y a d'indiqué, on le laisse de côté.
Ah ben, on va laisser beaucoup de choses.
Eh ben, on laissera beaucoup de choses, voilà. On prendra des produits bruts. Ensuite, quatrième point, il faut faire très très attention à tout ce qui est ajouté type sirop de fructose glucose. Vous en trouvez partout maintenant. Ouais. Même dans certains jambons blancs, vous imaginez. Donc tout ça, c'est pour vous rendre addictif, pour vous faire consommer plus, pour adoucir le produit. Donc faites très attention. Quand il y a marqué sirop de fructose glucose, là aussi, laissez-le de côté. Puisqu'on a cette force comme consommateur, c'est de mettre de côté des produits qui ne nous conviennent pas. Donc on a ce pouvoir, il faut absolument l'utiliser.
Le cinquième point, ce sont les contenants.
Faites attention aux conserves en métal. On a des interrogations concernant les vernis à l'intérieur qui sont utilisés. Donc on a un défaut d'information. C'est mieux de prendre des bocaux tout simplement. Vous voyez le produit, vous voyez un peu ce qu'il y a et c'est beaucoup mieux compte tenu du défaut d'information que l'on a.
Et enfin, sixième petit point, allons-y.
Essentiel, consommer bio. Plus vous consommerez bio, moins vous serez exposé à des résidus de pesticides. En plus, il faut encourager l'agriculture bio, de préférence, bien entendu, du bio local, du bio français, du bio un peu italien. Les Espagnols font aussi du bio correct. Tout ce qui est culture locale, bien entendu, bio, en sachant qu'aussi, sur le plan local, on a des agriculteurs qui travaillent en conventionnel très bien, pratiquement en bio, mais qui n'ont pas le cahier des charges forcément bio. Mais là, vous allez les voir, vous discutez avec eux, on peut trouver aussi des très très bons produits.
Signé du docteur Laurent Chevalier, nutritionniste en CHU et responsable de médecine environnementale, et de Claude Aubert. Alors, on mange quoi? Le guide du bon sans toxique aux éditions Fayard. Tenez, on va rejoindre Hervé Kempf rapidement du site Reporter, qui est un site d'information formidable. Bonjour Hervé, alors que se passe-t-il pour vous?
Bonjour Denis. C'est un appel paradoxal, c'est Reporter va bien, vous l'avez dit, le quotidien de l'écologie fait son boulot tous les jours avec une équipe, avec des informations professionnelles. On a doublé le nombre de visiteurs en un an, on grandit rapidement et je crois que tout le monde dans le mouvement écolo et au-delà comprend ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire un outil au service de l'information sur l'écologie et sur les luttes et sur les alternatives aussi. Et on dépend largement des dons des lecteurs pour à peu près 50%, et on voudrait même que ce soit plus. Et donc on va bien, les finances sont saines, mais on a besoin que les gens continuent à nous soutenir. Et en ce moment, on lance une campagne de soutien, une campagne de dons.
Comme on dit, c'est du crowdfunding. Et donc, on retrouve ces éléments sur le site de Reporter.
Et ben voilà, reporter.net, reporter.net.
Alors, c'est pas simplement le côté faire une bonne action, hein. On dépasse ce cadre-là.
Oui, tout à fait. Il faut quand même préciser, on est en accès libre. Pourquoi? Parce que tout le monde doit pouvoir être informé sur l'écologie. Et en fait, quand quelqu'un nous soutient, il aide en fait les gens autour de lui à accéder à l'information sur l'environnement. Ensuite, on vit sans publicité, parce qu'on pense que la publicité, ça occupe le temps de cerveau disponible et on en a besoin pour d'autres choses. Et on n'a pas de propriétaire, on n'a pas de grande compagnie qui nous possède. On est une association, ce qui ne nous empêche pas d'être parfaitement professionnel, mais on tient à être indépendant financièrement. Mais pour ça, on a besoin du soutien des lectrices et des lecteurs.
Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à Hélène Langlois à la technique, à Christophe Imbert qui réalisait cette émission, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Et alors la semaine prochaine, ça va être la grille d'été. Alors je vous retrouverai en fait avec Jean-Marie Pelt, avec grand plaisir. Ce sera le samedi et le dimanche autour de 8h50 en compagnie de Laetitia Gaillet et de Clotilde Dumetz. Et puis bien sûr, retour de CO2 Mon Amour le samedi 3 septembre. Je vous souhaite d'excellentes vacances.